Les semaines s'enchaînent et on n'arrive pas à se débarrasser de Philippe Meunier et Diego Rabah, ils sont toujours là.
Ben oui, on est accroché
depuis 11 ans.
Depuis 11 ans. je suis pas gentil parce que pour moi, c'est un régal de se retrouver chaque semaine et pour nos auditeurs aussi, je pense, dans un jour, un livre, un auteur. Alors la semaine dernière, on était dans Le Policier. On va rester, je crois, cette semaine avec vous, Diego, dans Le Policier, mais pas tout à fait. C'est plutôt un fait historique.
Alors c'est une enquête policière.
Oui.
Sur un fait réel.
Un fait réel.
Donc, et nous recevons l'auteur de ce livre qui est en face de moi, Éric Amouraben, qui a mené cette enquête. Ça s'appelle Le Cinquième Homme. Donc ça rappelle un peu Le Troisième Homme qui était une sorte de roman noir. Mais là, on est sur Le Cinquième Homme et donc on va demander tout à l'heure à Éric de nous en parler. Mais avant, nous allons...
Comme d'habitude, on va...
Dire bonjour à nos auditeurs. Oui. Voilà, parce que là, vous me lancez.
Bonjour Diego et bonjour Philippe Meunier.
Bonjour Diego Rabah et bonjour. Bonjour
Philippe les deux Philippe et bonjour à Éric qui est en face de moi, Éric Amouraben, que je reçois pour Le Cinquième Homme, un roman qui est paru aux éditions Confident. Nous avions il y a quelques semaines aussi
reçu Agnès Olazabal.
Pour un autre.
Pour son grand-père qui a été résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Et elle nous avait recommandé votre livre, Éric Amouraben. Donc, du coup, on s'est dit, on va le recevoir.
Voilà. Alors, Éric, mon habitude, c'est de faire un petit billet d'humeur. Et à partir de là, soit vous me tapez, parce que vous êtes juste en face.
Vous avez le droit.
Vous sortez votre matraque.
Très fort.
Puisque vous n'en avez pas.
J'en ai une, là, pour Diego.
Il vaut mieux, oui. Alors, voilà. Le Cinquième Homme d'Éric Amouraben aux éditions Confident. Voilà un livre qui n'est pas tout à fait un polar, bien qu'il relate une enquête minutieuse. Une enquête conduite sur des faits commis plus de 60 ans plus tôt, le 16 juin 1944, dans une clairière des environs de Pau. 5 hommes y sont exécutés par les occupants, dont le grand-père de l'auteur. 4 sont bien identifiés, le 5e est anonyme. C'est pour lui rendre son identité et le tirer du néant auquel ses tueurs le destinaient qu'Éric Amouraben reprend à son compte ce cold case. Je le disais plus haut, ce récit n'est pas un roman. Il serait plutôt un journal de recherche, comme en tiennent tous les chercheurs. En bon historien, quoique amateur, l'auteur relate presque au jour les jours les hypothèses, les méthodes d'investigation, les percées et les impasses de sa quête. 60 ans, ce n'est pas rien. Les indices ont disparu, ne restent que des traces et des témoignages de plus en plus fragiles des rares survivants. Durant 10 ans, Éric Amouraben va patiemment remonter les pistes froides avec l'opiniâtreté des fins limiers. Et ce récit de sa quête, écrit avec la rigueur d'un rapport de police, accroche le lecteur qui s'y plonge tant la conviction de l'auteur est communicative. Un cold case très actuel qui met à l'honneur ces hommes et ces femmes qui ont lutté et donné leur vie contre la barbarie et qui montre que la volonté d'annihiler le souvenir des martyrs se heurtera toujours à la volonté des chercheurs intègres. Le Cinquième Homme de Éric Amouraben, édition Confident. Éric, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous occuper de ce Cinquième Homme?
L'envie, elle est d'abord familiale, puisque j'ai découvert cette histoire très jeune, puisque mon grand-père a été fusillé à Ydron. Et assez vite, j'ai été interpellé par l'histoire des 5 hommes fusillés là, parce que quand on est petit et jeune, on comprend pas trop pourquoi son grand-père a été tué. Alors voilà, on découvre ce qu'a été l'occupation, etc., de manière brève. Et puis après, il y a la fascination qui est venue petit à petit de cet inconnu qui a été tué avec mon grand-père. Alors lui, c'était de plus en plus mystérieux parce qu'effectivement, c'est le seul dont on ne savait rien, ni le nom, ni l'origine.
En fait, lorsque votre grand-père a été exécuté, il était en compagnie de collègues de travail de lui et de cette personne supplémentaire dont on ne savait rien. Donc les collègues de travail ça a permis de savoir qui ils étaient, de l'identifier, sauf cette personne-là qui, elle, a priori, n'avait rien à voir avec les faits qui ont conduit à l'exécution de ces quatre fonctionnaires de police. On peut le dire tout de suite, c'était les fonctionnaires de police qui étaient au commissariat de Pau, c'est ça ?
Voilà, il y a trois fonctionnaires de police. Le quatrième est un résistant qui a été identifié assez vite, hein, qui s'appelait René Amiel, qui était lourdé d'ailleurs, d'origine. Mmh. Mais c'est parmi les trois policiers, évidemment, il y avait mon grand-père, et il n'y avait que ce cinquième homme dont on n'en savait rien, en fait. Donc il y avait trois policiers, un résistant et un autre résistant, mais on ne savait pas du tout, on n'avait aucun indice sur lui.
D'accord. Et a priori, c'était quelqu'un qui n'avait pas été raflé sur place, puisque c'est la rafle dans laquelle et le résistant et votre grand-père et son autre collègue ont été pris, ils étaient sur Pau. Celui-là arrive, on ne sait pas d'où, et donc il faut d'abord savoir d'où vient cette personne.
Oui, tout à fait. Les autres avaient été arrêtés en vallée d'Ossau dans un combat avec les Allemands, hein, donc... Aussi bien René Amiel que les trois policiers ont été arrêtés au maquis lors d'un combat, donc c'était assez facile de savoir combien de personnes avaient disparu à ce moment-là. Par contre, le cinquième homme, effectivement, lui, on ne savait pas du tout, il avait pas été arrêté dans ces combats-là. Mais c'est une période où les Allemands aussi, j'allais dire, contrôlaient beaucoup de gens, abattaient sommairement beaucoup de gens aussi sur les bords de route parce que le débarquement avait eu lieu, ils étaient nerveux. Donc on ne savait absolument pas d'où venait cet homme-là.
Mmh. Donc est-ce que vous pouvez situer, parce que là j'ai parlé de l'année, le 15 juin 1944, oui. Donc le 15 juin, on est une semaine et les poussières après le débarquement en Normandie. Donc il y a à la fois les occupants qui remontent militairement pour pouvoir pénétrer main forte aux troupes en Normandie, mais il y a tout au long de ces fonctionnements des combats d'arrière-garde et des représailles. Vraiment féroce et sanguinaire de la part de l'occupant.
Oui, autant l'esprit des résistants, c'est qu'ils vont être libérés rapidement parce que le débarquement a été annoncé, les troupes anglo-américaines, canadiennes ont débarqué. Donc c'est un peu l'euphorie chez les résistants. Par contre, chez les Allemands, ils n'ont pas du tout capitulé à ce moment-là. Et au contraire, ils ont accentué une répression qui était... que personne n'avait prévu, je pense. Hein. Et les Allemands ici, dans le sud-ouest, notamment près des Pyrénées, on savait qu'il y avait des maquis, évidemment, donc ils ont lutté contre ces maquis, mais ils se gardaient aussi une porte de sortie vers l'Espagne
bien sûr.
Où Franco était là-bas. Il s'était dit que ceux qui ne pourront pas remonter pourraient éventuellement regagner. Donc ils voulaient garder absolument une porte de sortie vers l'Espagne. Et c'est pour ça que tous ces maquis pyrénéens aussi ont été attaqués.
De façon assez violente.
Voilà, tout à fait.
Ok. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez construit votre enquête, puisque c'est une enquête, hein, comment vous avez construit votre enquête, et avec la première étape qui était d'identifier cette personne, ou du moins de trouver une première hypothèse d'identification, et ensuite de pouvoir valider cette hypothèse pour enfin pouvoir lui rendre son identité et recueillir sa dépouille, ou du moins donner une identité à sa dépouille.
Oui, alors la première hypothèse que j'avais enfant, moi, et qui était la version, j'allais dire, officielle des autorités, donc de ma grand-mère, c'était que c'était un républicain espagnol qui était resté ici dans les Pyrénées, qui avait été pris et qui avait combattu dans les maquis et qui avait été donc fusillé ce jour-là avec eux. Mais on ne savait rien sur lui et eux, ils étaient partis du principe que, justement, si sa famille était en Espagne, c'est peut-être pour ça que personne n'avait réclamé sa dépouille. Ils ne savaient peut-être même pas qu'il était mort. Bon, ça, c'était la version vraiment officielle. Jusqu'au jour où moi, en faisant des recherches aux archives départementales, je suis tombé sur un document. C'était le procès verbal d'exhumation de ces cinq fusillés. Un procès verbal qui avait été fait par un commissaire des inspecteurs de police, des collègues à mon grand-père, donc, qui avait eu le signalement par la mairie d'une fosse commune, comme ça se découvrait après le départ des Allemands. Et donc tout ça a été écrit, et il décrivait assez précisément les dépouilles qui étaient sorties, les cinq corps qui étaient sortis de cette fosse commune. Et c'est comme ça que j'ai eu la première, j'allais dire, image, même si j'avais pas de détails, j'avais une première silhouette de cet inconnu. Et c'est là que j'ai eu quelques éléments, qui faisait 1m75 environ, qu'il avait une veste, un pantalon, des sandales, qu'il avait une alliance. Donc voilà, après, le policier réfléchit, se dit s'il avait une alliance, il était marié, ou au moins il avait été marié. Il avait une veste, voilà, dont l'origine géographique était très intéressante, et c'est ce qui m'a orienté, puisqu'il y avait une étiquette donc, qui plaçait cette veste avec un fabricant d'Air-sur-Adour, donc dans les Landes. Donc tout ça, évidemment, moi qui ne savais rien sur cet homme, que l'hypothèse officielle, là je me disais, bon, un républicain espagnol qui a une veste d'Air-sur-Adour, bon, c'était possible hein, qu'il ait récupéré cette veste. Mais j'avais une orientation géographique qui devenait intéressante pour moi à chercher dans les Landes si quelqu'un n'avait pas disparu.
Et donc vous êtes parti dans cette recherche d'un disparu possible dans les Landes, et là vous avez relativement rapidement éliminé plein de pistes et défini une première identité hypothétique.
Oui, alors au début effectivement j'ai travaillé sur les résistants des Landes qui avaient été arrêtés, qui étaient... qui n'était pas reparu à la fin de la guerre en revenant de déportation ou autre. Et effectivement, par élimination, hein, parce que j'avais aucun nom, j'ai contacté des historiens des Landes, etc. Alors, je n'ai pas tout de suite trouvé, mais j'ai trouvé un courrier assez intéressant encore aux archives des Pyrénées-Atlantiques, où il y avait une dame qui s'inquiétait de la disparition de quelqu'un de sa famille, sans en donner l'identité. Un courrier qui avait été écrit dès août 1944, à la préfecture de Pau, où elle disait qu'il avait peut-être été fusillé. Donc ça me paraissait très intéressant, parce que les dates qui étaient mises correspondaient. On était entre le 14 et le 15 juin, et elle disait que le 15 juin, ils n'avaient plus aucune nouvelle de cet homme qui avait été arrêté le 14 juin à Air-sur-Adour. Donc évidemment, quand on recoupe un peu ces éléments...
Air-sur-Adour, voilà, une veste d'Air-sur-Adour.
Air-sur-Adour. Le 14 juin, les policiers sont arrêtés aussi le 14 juin. Donc tout ça, ça correspondait, et ça me paraissait très intéressant de savoir, cette dame, quand elle a écrit ce courrier, de qui elle parlait. Elle ne le mettait pas directement, elle disait « j'ai un membre de ma famille qui a été arrêté », mais moi je me suis intéressé à cette dame pour pouvoir remonter la personne dont elle parlait. Quoi.
D'accord. Voilà. Et donc vous l'avez rencontrée, ou vous avez rencontré des enfants de...
Alors cette dame était décédée dans les années 80, et j'ai pu rencontrer après, après que j'ai trouvé le nom, parce que jusqu'à là j'avais pas de nom, sa famille, ils étaient quasiment tous disparus, et de sa famille directe à elle, je n'ai trouvé personne. Mais j'ai pu trouver par moi-même le nom qui pouvait correspondre à ce membre de la famille. Et après, j'ai eu des gens de la famille, effectivement, qui m'ont confirmé que c'était assez tabou dans la famille, la disparition de ce membre de la famille.
Pourquoi c'était tabou? Pourquoi c'était tabou?
Mais parce qu'à l'époque, ils avaient été traumatisés par... les familles étaient quand même assez traumatisées de ces arrestations par les Allemands. Et en fait, la fille l'a très mal vécu, la fille de disparu, hein, de l'inconnu. Et elle n'a jamais su ce qu'il était devenu, son père. Elle est morte avant. Elle est devenue alcoolique parce que son père avait disparu, qu'elle n'a jamais su ce qu'il était devenu et qu'elle n'a jamais trouvé de trace de la disparition de son père, en fait. Donc c'est parfois dans les familles, ça ne parlait pas et mais ton père est mort, il a disparu, il a été arrêté un jour, point.
Mais alors, il y a une chose quand même, il me semble qu'il manque là, un peu au puzzle dans ce que vous dites.
Ouais.
C'est que on parle pas du fait qu'à un moment donné il était résistant, ça savait qu'il avait été résistant. Donc si on disait qu'à un moment donné il était résistant, qu'il avait disparu, ça aurait pu se faire comprendre. Est-ce qu'à un moment donné on reprochait peut-être quelque part dans les familles à des personnes d'avoir été résistants, de s'être mis en danger et d'avoir mis en danger leur propre famille, et par là même à un moment donné d'avoir disparu? Est-ce que c'est ça que vous dites un peu en creux ou pas?
Alors je pense surtout que la famille savait pas qu'il était résistant, qu'il a été un mouvement de combat. Et comme il a été arrêté lors de rafles sur Air-sur-Adour dans un pré contrôlé comme d'autres, et ramené à Pau et disparu, il ne savait rien en fait de cet homme qui secrètement appartenait à la résistance.
Je vous pose la question parce que comme vous êtes publié dans la même maison d'édition que Annie Olazabal, Annie Olazabal, sa mère savait parfaitement que son père était résistant. Donc, elle a pu lui raconter. Donc, elle comprenait à un moment donné le fait qu'il ait pu disparaître. Or là, c'est quand même fou que même sa femme donc ignorait qu'il ait été résistant.
Alors, ce qu'il faut que je précise, c'est qu'il était en instance de divorce, que sa femme était restée sur
Bordeaux.
D'accord,
là, je comprends mieux. Voilà. D'accord. Il me manquait une pièce. C'est pour ça que je disais qu'il manquait une pièce au puzzle. D'accord.
Il était en plein divorce. Donc, lui, il était sur Bordeaux avec elle. D'accord. Et il est reparti dans les Landes où il y avait la famille de son mari,
Sa famille à lui.
De sa famille à lui. Et donc, lui s'est replié dans les Landes, il était en instance de divorce.
D'accord.
Ce qui fait que sa femme ne savait pas du tout son activité et la fille était restée avec la maman.
Philippe,
J'ai une question. Eric Amourabène, bon, votre grand-père était policier, vous êtes devenu policier. Est-ce que dans la motivation de devenir policier, il y avait quelque part dans votre tête, je vais devenir policier un jour, comme je suis policier, que je vais avoir tous les codes, toutes les entrées nécessaires pour pouvoir reprendre cette enquête, un jour je vais faire cette enquête pour mon grand-père. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous êtes dit, consciemment ou inconsciemment, et puis qui a donné ce livre, hein, pour lequel on vous invite aujourd'hui, hein, Le Cinquième Homme, donc publié aux éditions Confident?
Alors, je ne sais pas s'il y a une influence, peut-être, j'en parle dans le livre, quelques gènes, peut-être, policiers, j'en sais rien, qui... mais consciemment, je ne pense pas. Mais j'étais très curieux, déjà enfant, de cette histoire-là. Et voilà, ma grand-mère m'a raconté, elle se confiait, on était quatre frères, en fait, c'est à moi qu'elle se confiait le plus, parce qu'elle savait que ça m'intéressait. Et donc, j'ai hérité un peu de même des objets de mon grand-père, enfin, ce qui lui appartenait. Et inconsciemment, effectivement, lui était inspecteur de police dans une période où j'aurais pas aimé l'être. Mmh. Et moi, j'ai aussi fait ce choix-là au fur et à mesure de ma vie. Donc,
Ça veut dire que sur les quatre frères, si je comprends bien, il y en a trois qui étaient moins intéressés que vous. Vous qui étiez vraiment intéressé, quelque part, votre grand-mère vous donne ces objets en vous confiant, quelque part un peu... la tâche de poursuivre cette mémoire, ce travail de mémoire, vous auriez pu ne pas l'accepter. Vous l'avez accepté, puisque au bout, il y a quand même ce livre.
Oui, je l'ai accepté, mais sans... Alors moi, je m'intéressais beaucoup, évidemment, à la vie de mon grand-père et de ses collègues policiers, etc. Mais je n'étais pas du tout parti pour faire une enquête sur le cinquième homme. Hein. Enfin, sur le martyr inconnu, je n'y pensais pas du tout à cette époque-là. C'est après, avec le temps, et en trouvant des documents, que j'ai dit, mais en fait, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose. Donc, oui, j'ai été, j'allais
dire... Parce qu'il faut avoir la motivation. Vous imaginez l'enquête que vous avez faite, le temps que vous avez pris.
Oui,
mais... Les années que vous avez passées.
Oui, mais c'est ce que...
Enfin, c'est 10 ans de votre vie, quoi. C'est pas neutre.
Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Je l'aurais pas fait, peut-être, si j'avais su. Mais en fait, le temps passe et vous travaillez, vous cherchez, et le temps passe vite. Enfin, on le sait tous.
Qu'est-ce que vous voulez dire, que vous vieillissez comme Diego et moi? Bon, je vous rassure, en voyant Diego, je vous comprends.
On a vieilli à la même allure, normalement.
Oui, à peu près. Oui,
bah, lui, un peu plus vite, peut-être. Hein,
Mais et c'est pour ça que, en fait, le temps passe. Et bien sûr, si on dit, tu vas passer 10 ans à faire ça, je sais pas si je l'aurais fait.
Parce que 10 ans, vous imaginez, vous avez passé 10 ans de votre vie à faire une enquête qui est passionnante. Vous avez quand même au dos, vous êtes reçu par Laurent Bignolas de Télématin à France 2, c'est quand même pas rien, qui dit que c'est une enquête incroyable pour rendre un nom à un fusillé inconnu. Bon, on sait que les grands médias ne vont pas inviter les gens pour des choses anodines. C'est pas du tout anodin ce que vous avez fait, ça demande une énergie énorme.
Oui, c'était un peu...
C'est une mission presque.
Alors, c'est une mission pour moi peut-être, voilà, et pour la famille évidemment. Mais je pense aussi que ce qui était un peu exceptionnel, c'était peut-être de mélanger justement une enquête classique traditionnelle de police avec des techniques beaucoup plus modernes que sont l'ADN et voilà. Et ça, je pense que c'est ce qui a un peu intéressé les médias, voilà, quand...
Excusez-moi, votre famille, comment elle a accueilli ce livre ?
Oh ben très bien, oui. Ma famille...
C'est-à-dire de vous dire à un moment donné, voilà, vous avez levé le voile sur un mystère.
Oui, ma mère qui est encore en vie et voilà, qui est la fille donc d'un des fusillés. Voilà, tout le monde était ravi. Madame Lousteau, qui est la fille d'un fusillé aussi. Voilà, évidemment, tout le monde était ravi. Bon, après, ils suivaient à peu près, enfin, je vois... ma mère, elle suivait mon enquête aussi. Je lui disais à peu près au fur et à mesure où j'en étais. Donc
elle s'intéressait.
Elle n'était pas surprise. Voilà. Et donc, bien sûr, ça a été très très bien accueilli. Et par les familles, même la famille évidemment de l'inconnu. Celui qui est inconnu.
Messieurs, le temps imparti malheureusement est arrivé à la fin. Ce que je vous propose, parce que le sujet est très intéressant, c'est que nous retrouvions la semaine prochaine pour continuer cet échange sur cette enquête qui nous amène un peu partout. Voilà, on est parti de Pau, hein, au commissariat de Pau, mais on va aller à Lyon.
On
va expliquer pourquoi on va aller à Lyon.
On va rappeler
le titre.
Eric Amourabène, Le Cinquième Homme aux éditions Confident. Et on revient la semaine prochaine pour faire un dernier... petit point effectivement
sur ce
là-dessus.
Livre.
Voilà. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.